Quatrième et dernier temps de notre série sur les usages de la mer, ce matin, la France et ses eaux, ou pourquoi la France n'a pas eu le destin maritime qui était un temps à sa portée. Ce sera la question que nous poserons à nos trois invités. Après avoir approché lundi les pirates, mardi les archéologues sous-marins et autres pilleurs d'épaves, puis nous être intéressés hier au peuple des rivages, nous allons ce matin nous demander si la France, comme on le dit souvent, n'a pas eu la destinée maritime qu'on pouvait attendre de celle que Richelieu qualifiait d'empire des mers. Pour répondre à cette question ancienne, avec Anaïs Quien, nous recevrons Patrick Villiers. Il est professeur émérite en histoire moderne à l'université de Littoral Côte d'Opale. Il est auteur, entre autres, de La France sur mer, en collection plurielle, ou encore de l'Hermione aux éditions Encre. Cyril Coutancet sera avec nous au téléphone. Il est directeur de recherche au Centre d'études stratégiques de la Marine. Il est auteur, entre autres, de l'Empire des mers aux éditions du CNRS, qui a été publié en coédition avec le Musée de la Marine et qui est sorti l'année dernière. Et enfin, Patrick Geisdorfer est avec nous. Il est océanographe et officier de marine, directeur de recherche au CNRS et auteur chez Nouveau Monde de Histoire de l'océanographie de la surface aux abysses. Bonjour Anaïs Quien, bonjour à vous Patrick Villiers.
Bonjour.
Bonjour à vous Cyril Coutancet, vous êtes avec nous au téléphone.
Bonjour.
Et bonjour à vous Patrick Geisdorfer. Bonjour.
Bonjour.
C'est une question ancienne, pourrait-on dire, Patrick Villiers, puisque je crois avoir repéré dans un Malais Isaac des années 20, des années 30, cette question, la Grande-Bretagne maîtresse des mers, et donc pourquoi la France ne l'a-t-elle pas été? C'est une question récurrente qui revient souvent. Un pays qui a trois façades maritimes devrait être une puissance maritime, et elle n'a peut-être pas été, cette puissance maritime, à la hauteur de ce qu'on pouvait escompter, Patrick Villiers.
Alors c'est un vaste débat. D'abord, l'Angleterre, comme son nom l'indique, c'est la terre avant d'être la mer. Mmh. Et donc, l'Angleterre ne commence à une puissance maritime, contrairement à ce qu'on raconte, qu'avec Élisabeth Ière. Mmh. Avant, il n'y a pas 10 000 marins. En fait, la première puissance maritime, et Patrick Geisdorfer est ravi de l'entendre, c'est la Bretagne. Mmh. C'est la Bretagne qui est la première puissance maritime de France. Mmh. Et il faut qu'il y ait unité nationale de la France pour que on ait les deux grandes provinces maritimes, c'est-à-dire la Bretagne et la Provence. Ce sont les deux provinces qui nous fournissent le plus de marins. Mmh. Hein. Donc voilà, il faut déjà qu'il y ait l'unité nationale qui se fasse.
Mmh. Anaïs Quien.
Oui, Cyril Coutancet, vous dans l'introduction de votre ouvrage L'Empire des Mers, vous avancez l'hypothèse qu'il s'agit d'un problème politique qui a empêché justement le développement maritime de la France.
Oui, dans le sens où effectivement, pour reprendre l'intervention précédente, la France est naturellement une nation maritime puisqu'elle est peuplée de peuples de marins, si on peut dire, des Provençaux, des Bretons, des Normands aussi, des Basques, et que ce qui a beaucoup joué effectivement, c'est l'intérêt que pouvaient avoir les souverains pour ces façades maritimes et l'investissement qu'ils pouvaient y mettre. Et le parallèle avec l'Angleterre et Élisabeth Ière est tout à fait éclairant justement, c'est que l'Angleterre, à partir d'un certain moment, a décidé de s'investir totalement dans le maritime, dans la durée, contrairement à la France. Et ce qui a beaucoup joué, c'est effectivement ça, c'est-à-dire que en France, nous avons eu des souverains qui sont intéressés à la mer par intermittence. On en a eu quelques-uns, Richelieu notamment, Napoléon III, et puis le règne suivant, l'intérêt diminuait, et donc l'investissement dans le domaine maritime diminuait aussi.
Je vous trouve un peu sévère, Cyril Coutancet, dans l'Empire des mers, Atlas historique de la France maritime, avec le règne de Louis XIV, non pas que je veuille défendre le roi Soleil, mais vous dites effectivement que c'est bien Richelieu et avant lui peut-être Henri IV qui a eu des prétentions à parcourir les mers et s'est rendu compte effectivement de la faiblesse maritime française, mais néanmoins c'est bien sous Louis XIV et sous l'égide à la fois de Fouquet et de Colbert qu'on va créer une très grande flotte maritime et en particulier une flotte commerciale d'un côté, mais également une flotte militaire.
Alors en effet, moi le souci que j'ai, si on peut dire, avec Louis XIV, c'est que quand on regarde dans l'histoire de France, il faut que la France, pour qu'elle puisse se tourner vers les mers, soit en paix sur le continent et ne soit pas sur le continent européen et ne soit pas trop ambitieuse sur le continent européen. Sinon, forcément, il y a des coalitions qui se font jour avec ses voisins et donc elle ne peut plus se consacrer à l'outre-mer. Et Louis XIV, juste avant la guerre de Hollande, en tout cas, est dans une position où globalement la France est déjà relativement puissante. La France est alliée de la Hollande, ou du moins de Jan de Witt qui est à sa tête. Et donc la France peut se tourner vers l'outre-mer si elle le souhaite. Et Louis XIV, pour des raisons qui restent encore incompréhensibles aujourd'hui si on regarde les choses de manière rationnelle, se lance dans la guerre de Hollande et ça va être une succession de guerres qui vont occuper tout son règne, de guerres continentales. Et après, évidemment, il y a un investissement dans la marine, sauf que la guerre contre la Hollande provoque une alliance entre l'Angleterre et la Hollande, et que l'investissement a beau être fait dans la marine, il n'empêche que le combat est perdu d'avance d'une certaine manière, puisque la France, de toute façon, sera perdante face à la coalition Angleterre-Hollande.
Mmh. Anaïs Kier.
Oui, Patrick Geisdorfer, on se rend bien compte aujourd'hui qu'en tout cas, en termes d'affichage, il y a une différence incroyable entre les pratiques d'affichage des traditions marines pour les pays anglo-saxons et de l'autre côté, cette valorisation qu'on peine parfois à repérer du côté français. Est-ce que c'est lié peut-être à un fossé qui existerait entre la France et ses marins, tout simplement ?
Non, je pense que c'est un peu plus compliqué. D'abord, la France a deux façades maritimes, ou trois si on prend la Manche. C'est un de ses problèmes, la Méditerranée d'un côté et l'Atlantique Manche de l'autre côté. Donc il y a déjà une division des forces. Mais il y a tout de même une tradition maritime qui est reconnue et qui effectivement n'a pas la valorisation que peuvent avoir des traditions terrestres qui sont beaucoup plus dominantes. Mais elle n'a jamais été totalement abandonnée.
Mais et comment vous l'expliquez cela ?
Ben, on est un pays de paysans, même moi qui suis d'origine bretonne, ben, je suis du littoral, parce que le centre de la Bretagne, ce sont des paysans, hein. Et même s'il y en a qui vont sur les flots de temps en temps, mais il y a tout de même une tradition maritime qui a subsisté, effectivement, Coutancé rappelait qu'il y a eu des puissances maritimes à certains moments, Richelieu, Colbert, même Napoléon Ier, qui s'est aperçu qu'il fallait développer une marine, il s'y est mal pris et ça s'est mal passé. Napoléon III, il y a aussi la période du 1930-1940, au moment du Front populaire, que la France avait des belles marines qui n'ont pas été effectivement efficaces. Cela dit, on était l'année dernière, il y a deux ans du moins, à fêter, si on peut dire, le début de la guerre de 14. Or, on n'a parlé que de quoi ? Des poilus, l'armée de terre,
les marins. Un peu de l'armée de l'air.
Un petit peu de l'armée de l'air qui naissait. Mais la marine a été pratiquement ignorée, sauf pour les Dardanelles, ce qui n'a pas été un succès, et un petit peu pour les fusiliers marins à Dixmude. Or, la France, l'Angleterre n'aurait pas pu gagner la guerre si ces deux pays n'avaient pas mis en commun leur marine, souvent sous commandement unique, par exemple pour la guerre des mines dans la Manche et aux Dardanelles. Mais enfin, Dardanelles, je vous l'ai dit, c'est pas brillant. Et c'est la marine qui a assuré, dans une certaine mesure, le succès de la guerre de 14-18 en assurant la protection des convois. Je dis la marine française, dont on parle jamais pendant la guerre de 14, ou pratiquement, et la marine anglaise ont assuré la protection des convois contre les attaques des sous-marins allemands, et s'ils n'avaient pas été là, la guerre aurait peut-être tourné de façon différente.
Alors, Patrick Villiers, en vous lisant, j'ai compris des choses que je ne comprenais pas, parce que je ne connaissais pas bien
gentil.
Cette histoire. Non, mais des choses que je ne comprenais pas, parce que, en particulier, vous dites à un moment que l'idée de Richelieu comme de Colbert, ce sont deux personnes qui ont compris, à un moment donné, que si on voulait être puissant commercialement, il fallait aussi être puissant militairement sur les mers et que l'un n'allait pas sans l'autre. C'est-à-dire que les deux marines, marine marchande d'un côté, marine de commerce et marine donc militaire, armée, étaient indispensables pour un pays qui voulait avoir un certain statut au milieu des autres puissances européennes du XVIIe siècle.
Alors, ma première thèse, ma thèse troisième cycle, en 1975, c'était le commerce colonial pendant la guerre d'Amérique, où j'ai démontré que contrairement à ce qu'on écrit dans tous les livres d'histoire, la marine nationale avait escorté les convois avec enthousiasme et non pas avec réticence, et que c'était le sucre qui avait gagné la guerre d'indépendance. Mmh. Donc la question fondamentale que j'essaye, à laquelle j'essaye de répondre depuis très longtemps maintenant, c'est une marine pour quoi faire. Et d'autre part, ce qu'il faut savoir, c'est que ça soit un navire de commerce, un navire de pêche ou un navire de guerre, c'est un investissement extrêmement lourd. Donc, c'est l'œuf et la poule. Pourquoi elle est sur mer? Pourquoi faire? Au monde de Colbert, c'est la Méditerranée qui a le plus grand commerce extérieur avec la France. Le grand bouleversement, et c'est pour ça qu'on va se battre contre la Hollande, c'est qu'on découvre brusquement que la richesse va venir de l'Atlantique, puis ensuite de l'océan Indien. Et à partir de ce moment-là, les navires de commerce sont la proie des corsaires, donc il faut les protéger. Est-ce que ça en vaut le coup? Quel est l'investissement? Car une marine de guerre à cette époque-là, avec les Hollandais, on arrive à un niveau d'excellence qui fait que, si on veut protéger ces bateaux, il faut une marine du même niveau que la leur, c'est-à-dire une marine permanente. C'est-à-dire des bateaux qui vont faire 70 canons, 80 canons, 100 canons, qui vont avoir des canons de 12 livres, 24 livres, 36 livres. C'est-à-dire qu'on entre dans la métallurgie de guerre, on entre dans l'industrie permanente, les arsenaux, les ports, c'est-à-dire des investissements colossaux. Et à partir de ce moment-là, pourquoi faire?
Anaïs.
Ben justement, pourquoi faire? Où en êtes-vous?
Eh bien, justement, la réponse, c'est celle qu'on vient de dire, etc. C'est que le commerce extérieur de la France se fait par mer. 90% du commerce extérieur de la France en 1789 se fait par mer. Par petit cabotage, par machin, mais par mer. Bon, et c'est encore vrai aujourd'hui. Les gens ne se rendent pas compte que si on avait une politique terroriste maritime, eh bien l'Europe, qui importe tous ses produits, se retrouverait brusquement dans la situation de l'Allemagne pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale.
Anaïs.
Oui, Cyril Coutancet, vous avancez une nouvelle fois, sans vous faire passer pour le père tape dur de cette émission, que la France aurait raté cette révolution industrielle du 19e siècle sur mer.
Alors ça, c'est effectivement, il y a un certain nombre de thèses là-dessus, disons que, alors ça c'est le grand mystère de la révolution industrielle et pourquoi en Angleterre et pourquoi à cette époque, mais il y a un certain nombre de thèses effectivement qui soutiennent que cette révolution industrielle a pu se passer en Angleterre grâce à son empire justement, notamment en Amérique, qui lui a permis à la fois de pouvoir se procurer des matières premières, mais aussi disposer d'une sorte de pré-marché de consommation qui lui permettait d'écouler ses productions. Et en ce sens-là, c'est vrai qu'il y a un parallèle qui est assez étonnant, puisque en tout cas une sorte de passation de pouvoir, si on peut dire, c'est-à-dire que sous Louis XIV et le début du règne de Louis XV, la France est une nation qui est dominante dans, on va dire, les produits à haute valeur ajoutée, que ce soit la quincaillerie, les draperies et autres. Et puis on va avoir une espèce de montée en puissance de l'Angleterre, justement, sous l'effet des débuts de la révolution industrielle, où les productions textiles ou de quincaillerie, justement, les fameux Toys de Birmingham, vont petit à petit remplacer totalement les productions françaises. Et la France va se recaler, et finalement, c'est pas très différent aujourd'hui, la France va se recaler sur des matières premières, donc le sucre de canne et autres, et puis des produits de luxe, en fait. Et toutes les productions intermédiaires, en tout cas, ont été prises en main par l'Angleterre, et ça c'est très lié effectivement à la révolution industrielle qui s'est jouée beaucoup en main. Oui.
Patrick Geisdorfer, et puis ensuite Patrick Villiers qui disait en aparté, ça se discute ce que vous dites, Cyril Coutancet. Patrick Geisdorfer.
Oui, je voudrais faire une remarque là. Coutancet est au Centre d'enseignement supérieur de la Marine, qui est dans la Marine nationale. Moi, je suis à l'Académie de Marine, qui est un établissement public national de la Défense. Et donc, c'est vrai qu'on a et en plus, j'étais officier de marine, on a des attaches avec la Marine nationale. Mais il n'y a pas que la Marine nationale. Il y a la Marine marchande, et il y a la Marine de pêche, et maintenant, il y a la Marine scientifique depuis les années 1960. Mais les autres marines ont existé. La marine marchande a été puissante et la marine marchande a joué un sort social parce que si on avait des convois escortés par les Anglais aussi bien pendant les deux guerres et les Français, c'est parce qu'il y avait des bateaux marchands, notamment des bateaux marchands français. Et il y a une marine de pêche aussi. La pêche française a été puissante, notamment la grande pêche à Terre-Neuve avec les bateaux qui venaient de la région de Fécamp ou de Saint-Malo. Originaire. Et donc, ces marines-là ont existé. Il y a les trois marines. Et puis maintenant, il y a une marine scientifique, un navire océanographique. Donc, c'est un tout. La tradition maritime, enfin, j'aime pas beaucoup la marine française, ce sont les marines. Et ça existait de tout temps. La marine scientifique est arrivée un peu plus tard, bien sûr. Mais marine de guerre et la marine marchande se tenaient.
Oui, Patrick Villiers, pourquoi disiez-vous tout à l'heure en aparté, quand Cyril Coutançais évoquait justement cette question de la révolution industrielle et de la Grande-Bretagne, se discute
Tout simplement parce que l'Inde, au XVIIIe siècle, était plus développée que l'Europe. Nous allions chercher les cotonnades, c'est-à-dire
les indiennes.
Les fameuses indiennes.
On en parlera la semaine prochaine dans une émission de la Fabrique de l'Histoire.
Voilà, eh bien... ce qu'a fait l'Angleterre en faisant la conquête de l'Inde, ça a été de détruire l'économie indienne pour la transformer en une productrice exclusive de coton brut. Et au contraire, l'industrialisation du XVIIIe siècle s'est faite avec la mécanisation. Et donc, on a réussi à faire baisser le prix de l'indienne des deux tiers. Et ainsi, ce sont les Anglais qui inventent la destruction d'une économie moyenne pour la soumettre à la révolution industrielle. Donc, la valeur ajoutée se produit en Europe. Et le XIXe siècle, quand la France se crée un empire, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'esclavage, on transforme les gens, on fait produire le produit brut, et nous on le transforme. Quant à la révolution industrielle, je vous signale que c'est la France qui invente la marine cuirassée. Le vrai problème, il est justement, c'est qu'après la défaite de 70, eh bien, on va se regarder vers la ligne bleue des Vosges. L'amiral Potiot dit bien, la marine doit se sacrifier à l'eau sur l'autel de la patrie pour qu'on construise des forts en Alsace. Et donc, c'est le problème que la France ne peut pas financer une marine de guerre et une armée de terre.
Anaïs Quin.
Oui, Cyril Coutançais, peut-être pour sortir de ces sauts chronologiques et saisir peut-être un mouvement social à l'intérieur de cette histoire maritime française. Comment peut-on comparer peut-être la construction sociale des corps de marine si l'on compare les traditions anglo-saxonnes et la tradition française ? On voit bien que la valorisation, la place du marin professionnel, que ce soit un professionnel militaire ou un professionnel commercial, n'est pas du tout construite de la même façon dans ces deux zones géographiques.
Oui, alors, mais c'est quelque chose qui se retrouve encore de nos jours, c'est-à-dire que ce qui était évoqué tout à l'heure sur le centenaire de la guerre de 14, c'est très frappant quand on raconte notre fameux roman national, de voir la place très réduite que prend le maritime dans ce roman national. Finalement, c'est quelque chose quand on regarde, on est très intéressé par exemple au moment des grandes découvertes, quand on raconte l'histoire de France par les expéditions des Portugais, des Espagnols et autres, et on évoque au mieux, en filigrane, les expéditions commerciales des Normands qui se produisaient à peu près à la même époque. Donc on a tout un pan de notre histoire en fait qui est occulté. Et je trouve que c'est assez symptomatique finalement. Si on pouvait résumer ça, on pourrait dire que la France est une nation maritime qui s'ignore, c'est-à-dire qu'elle est réellement concrètement maritime, mais en même temps elle a une représentation d'elle-même qui ne l'est pas du tout. Et ce hiatus entre ces deux niveaux est typique et effectivement se retrouve après dans l'importance des différents corps de métier et la valorisation de ces différents corps de métier.
Mais Cyril Coutançais, qu'est-ce que cela crée dans la conscience de soi qu'ont les marins militaires, par exemple, français ?
Sur la conscience, moi c'est surtout, il y a une chose qui me frappe, c'est-à-dire que il y a un peu une césure en fait entre la France et le monde de la mer en général, parce que ce n'est pas que les marins militaires, effectivement, c'est l'ensemble du monde maritime. Pour vous donner un exemple très concret, j'ai lancé un enseignement d'économie maritime cette année à Sciences Po, et c'était très frappant de voir la méconnaissance des étudiants sur ce secteur-là, qui est un secteur pourtant qui est de première importance aujourd'hui en France. C'est un secteur qui emploie plus de personnes, par exemple, que le secteur aéronautique ou le secteur automobile. Et bien, ces étudiants, donc bien formés, qui avaient passé le concours de Sciences Po, n'en avaient, pour ainsi dire, jamais entendu parler. Donc on voit bien qu'il y a un manque de capillarité, je dirais, entre le secteur maritime et le reste de la société. Il y a une difficulté à ce niveau-là.
Patrick Villiers, vous dites dans votre ouvrage La France sur mer, qui est un rassemblement d'articles anciens et plus récents sur tout votre travail d'historien sur cette question, et ça rejoint peut-être ce que vient de dire Cyril Coutançais, quand il dit qu'il y a une différence entre la représentation qu'on a de la mer et des marins et la réalité de ce qu'a été cette puissance maritime. Vous dites que la France a souffert longtemps d'un complexe d'infériorité, y compris par exemple au moment où la marine donc lancée par Richelieu puis Colbert était à son summum, les marins eux-mêmes avaient l'impression qu'ils étaient inférieurs à ces marins de Grande-Bretagne. Une question là aussi de représentation de soi, de place de soi dans la société dans laquelle on vit.
Alors, place de soi peut-être, mais il y a néanmoins une chose extraordinaire, c'est que si vous prenez le XVIIe siècle, vous apercevez que les rois d'Angleterre ont tous navigué, certains même, Prince Rupert, etc. Donc, ont commandé, enfin, des membres de la famille royale ont commandé des flottes de guerre. Louis XIV vient à Dunkerque découvrir la marine. Bon, ce jour-là, d'ailleurs, Jean Bart n'est pas là parce que il est en Méditerranée. Louis XV vient voir trois fois la mer. Il découvre Dunkerque au moment des batailles de la guerre de succession d'Autriche. Donc, armée de terre. Louis XVI vient à Cherbourg en 1786. Donc, en fait, le problème, c'est que les élites parisiennes ne connaissent pas la mer. D'où les âneries qu'on trouve écrites, à savoir la mer, territoire du vide, etc. Mais bien entendu que les côtes françaises étaient occupées. On l'oublie constamment. Mais quand il y a les grandes famines de 1709, eh bien, tous les ports de France et toutes les côtes évitent la famine grâce à la richesse de la mer.
Mais pardonnez-moi, Patrick Villiers, mais jusqu'ici, on ne fait que constater. Mais comment s'explique-t-on ce fossé français entre ces populations marines et celles qui ne le sont pas?
C'est quelque part Paris et Versailles et le désert français. C'est-à-dire, en fait, c'est l'ignorance des élites. Mais par contre,
pourquoi n'y a-t-il pas de marins dans les élites françaises?
Je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a des marins dans les élites françaises. Simplement, ces marins ne font pas leur publicité.
Mais pourquoi?
Parce qu'ils passent moins France Culture que les autres, je veux dire, mais ils existent.
Justement, pourquoi?
Surtout sous Louis XIV, ils passent moins France Culture que les autres. Patrick Gelsdorfer, vous n'êtes pas tout à fait d'accord?
Non, je pense que c'est pas aussi caricatural que ça. L'opposition entre la mer et la terre, elle existe, mais je pense pas que ça soit si caricatural.
Mais pourquoi autant de pudeur de la part des marins français?
Je parle de la pudeur, c'est le pays est tout de même essentiellement agricole, terrestre, et puis les moyens de transmission, de communication qu'on a actuellement n'existaient pas dans le passé, donc le littoral était le littoral, et au centre de la France, dans le Limousin, dans Lyon, on connaissait pas la mer. Et encore actuellement, on ne le connaît pas bien. Mais je voudrais revenir un petit peu au présent. Quand moi j'ai commencé à naviguer professionnellement, dans les années 60, on ne parlait pas de la mer, on ne parlait pas d'océanographie, on en parlait peu. Et actuellement, il y a tout un people de la mer qui se développe. Et évidemment, les problèmes des modifications du climat, ils sont pour quelque chose, parce que les gens commencent à comprendre que le climat, c'est pas uniquement le vent ou la météo, c'est un complexe entre le couple océan-atmosphère. Et donc, actuellement, on parle de la mer beaucoup plus qu'avant. Il y a même ce que moi j'appelle souvent des people de la mer, des gens qui sont pas spécialisés de la mer, mais qui en parlent beaucoup.
Des navigateurs un peu médiatiques, par exemple?
Des navigateurs un peu médiatiques et autres. Or, les navigateurs médiatiques, bon, c'est des sportifs de haut niveau, je respecte tout à fait leur navigation, leur métier, mais on parle beaucoup de la mer actuellement, beaucoup plus, notamment dans une perspective qui est très, très à la mode actuellement, et pas par hasard, c'est l'exploitation des richesses marines. Alors, il y a la pêche qui est traditionnellement exploitée, qui est d'ailleurs assez bien contrôlé, notamment au niveau européen, mais ailleurs. Mais il y a aussi les minerais profonds. Il y a l'offshore pétrolier, on le connaît. Donc, il y a actuellement, on parle beaucoup de la mer de ce point de vue-là, d'une façon qui n'est pas forcément parfaite dans les médias, je peux le dire ici tout de même.
Merci Patrick Gelsdorfer. Et puisque vous évoquez justement cette alliance entre la météo et la mer possible, Debussy l'avait déjà inventé avec le dialogue du vent et de la mer. Thank you.
Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Et à 9h32 sur France Culture, nous continuons et terminons notre série consacrée aux usages de la mer en nous interrogeant sur la question du rapport de la France à ses eaux, de la France à ses mers qui sont nombreuses et populeuses aussi. Et donc nous nous interrogeons en particulier sur ce déni qu'il y aurait en France vis-à-vis de la puissance maritime que ce pays a pu être. Patrick Villiers, quand on s'intéresse à cette question, on se dit, tout compte fait, c'est la projection d'un pays hors de soi, et donc c'est souvent, sauf tradition commerciale pacifique, mais c'est assez rare, c'est souvent la prédation, c'est souvent la conquête d'un pays outre-mer qui justifie aussi la présence sur ces mers. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est en lien avec cette histoire-là, c'est-à-dire l'histoire, la longue histoire coloniale, création de la Nouvelle-France, création de la France donc équinoxiale du côté du Brésil ou de la Guyane, et puis ensuite toutes les possessions que nous avons un peu partout réparties sur toutes les mers du globe, Patrick Villiers.
Alors le problème, c'est, il est très bien résumé dans Maurepas, dans le rapport de Maurepas de 1741. Maurepas a un budget de la marine qui est dérisoire, et il écrit un rapport à Louis XV en disant, il reprend les idées de Richelieu, hein, vous avez un empire, alors qu'est-ce que vous voulez protéger? Et d'autre part, ce qu'il dit, c'est que la croissance de l'empire français au XVIIIe siècle est deux fois plus rapide que l'empire anglais, et donc les Anglais vont nous le prendre. Donc il dit, on peut pas tout protéger, mais on va faire des choix. Bon, le Canada, ça a aucun intérêt. Les pêches à Terre-Neuve, c'est fondamental. Et surtout, il faut se concentrer sur un peu l'océan Indien et beaucoup les Antilles. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la valeur des Antilles fait les deux tiers du commerce extérieur de la France. Mmh. Bon, donc en fait, comme le roi ne veut pas payer d'impôts, on veut pas payer une marine, c'est les marchands qui font leur job tout seuls. C'est-à-dire que ce sont les ports qui investissent, ce sont les armateurs qui investissent. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous regardez les histoires des colonies françaises. Dans le mot histoire des colonies françaises, il n'y a pas le mot marine. Je peux vous montrer des histoires de la colonie française en 18 volumes, ou en 12 volumes, en 6 volumes, vous ne trouvez pas le mot marine. Et quand vous trouvez des histoires de la marine, on ne vous dit pas que c'est pour défendre les colonies. Or, dans les deux cas, c'était évident. Sauf que c'était une évidence locale. Donc, Le Havre va vers ceci, Saint-Malo vers cela, Nantes va faire cela. Donc,
et pourtant, les ports français ne peuvent pas oublier qu'ils ont été aussi des ports du commerce triangulaire. Et depuis certaines années, ils redécouvrent plus ou moins cette histoire, que ce soit Nantes, Bordeaux, Le Havre ou d'autres.
Vous savez, c'est comme une plaisanterie de croire que le sucre se faisait tout seul.
Ouais.
Orléans est la capitale du sucre au XVIIIe siècle. J'ai trouvé dans les comptabilités d'armateurs qu'on possédait des parts de navires négriers. Donc, on le savait parfaitement. Le problème, c'est qu'on a voulu l'oublier ou l'occulter.
Bon. Anaïs.
Oui, Cyril Coutances, justement, ce moment impérial colonial, n'est-il pas un moment où on peut repérer une marine qui tente de défendre ses intérêts, de sortir du placard d'une certaine façon et de sortir de ce qu'on a l'air de circonscrire un petit peu comme un complexe par rapport à cette tradition très terrienne française?
Oui, évidemment que la marine peut essayer, ou les marines, hein, parce que ça, effectivement, c'est
les marines, oui.
Il n'y a pas que la marine militaire, il y a la marine marchande aussi. Les marines peuvent essayer de sortir, mais ce qui est symptomatique, c'est que de toute façon, et on le voit au moment de la guerre de 7 ans, où donc quand tout l'empire, le premier empire colonial français est en train de s'effondrer, que ce soit au Canada ou aux Indes, la vision qui est portée par le pouvoir en place, c'est de dire que de toute façon on ne va plus consacrer de moyens à l'outre-mer pour essayer de sauvegarder cet empire, puisque quand il y a le feu à la maison, on ne s'occupe pas des écuries. Donc c'est assez symptomatique que l'outre-mer soit considéré à cette époque-là comme les écuries. Donc oui, il y avait une présence. Il y a aussi, de toute façon, il y a toujours une sorte de lobbying. On le voit bien au moment, d'ailleurs, de l'eau, par exemple, et de la Régence, où John Law, donc, se fait fait le relais aussi, donc investit évidemment et essaie de développer la Louisiane, mais se fait le relais aussi des intérêts malouins. Donc il y a toujours eu dans les antichambres une sorte de lobbying, mais des milieux de marine marchande notamment, mais qui n'a pas forcément porté non plus totalement ses fruits, puisque, comme c'était souligné tout à l'heure, effectivement, on reste dans le cadre de Paris et de Versailles, ouais. La mer apparaît très très loin quand même des préoccupations.
Et vous insistez beaucoup dans l'Empire des Mers, Cyril Coutancé, sur une sorte de sous-capitalisation chronique, dites-vous, de la marine française, marine de commerce en particulier. Vous dites que si les nobles veulent bien investir dans les compagnies à monopole, c'est parce que Richelieu leur pousse un peu la main, mais qu'ils n'ont pas véritablement envie, et qu'au bout du compte, même la façon dont ont été construits par Colbert les compagnies à monopole ne laisse pas assez la place au commerce privé, que ce commerce privé aurait été plus efficace, plus habile vis-à-vis du commerce en particulier des Anglais de la même époque, qui lui aussi est privé et qui n'hésite pas, par l'intermédiaire de la Banque d'Angleterre, à faire de la cavalerie justement pour pouvoir financer ces expéditions outre-mer du côté de la Banque d'Angleterre.
Oui, tout à fait. Alors, mais c'est un problème qui est beaucoup plus large que le seul domaine maritime. Il est clair que les structures financières et budgétaires archaïques de la France par rapport aux autres pays de la même époque, que ce soit les Pays-Bas notamment ou l'Angleterre, ont coûté très cher au domaine maritime, mais à beaucoup de secteurs économiques en particulier, puisqu'il n'y avait pas de moyen de se financer, en tout cas pour le secteur privé, même si c'est un peu anachronique d'en parler comme ça, mais des moyens de financement qui étaient très très compliqués, contrairement effectivement aux pays européens dynamiques de la même époque.
Patrick Villiers, vous voulez réagir ?
En fait, on l'oublie très souvent, mais les Anglais ont payé des impôts très lourds. Au contraire, le commerce colonial français était pratiquement sans taxes. Ce qui fait que, après les désastres de la guerre de 7 ans, Choiseul dit aux autorités maritimes commerciales françaises, vous avez vu ce que ça vous coûte de ne pas avoir de marine, donc vous allez m'en offrir une, c'est le don gratuit des vaisseaux. Et la marine de guerre de la guerre d'indépendance d'Amérique, la marine victorieuse, celle de l'Hermione, etc., est payée par les grands corps, hein, et on découvre qu'il faut des impôts pour payer une marine. Bon. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que les ports français ont été très dynamiques, mais l'intérêt particulier, l'intérêt général, c'est pas la même chose. Donc l'intérêt particulier, c'est d'aller à ce qui est le plus rentable, donc le sucre, le poivre, les indiennes, etc. Et le contrôle de la mer, la protection de ceci et cela, c'est-à-dire les autres missions, et notamment les missions contemporaines de la marine française, eh bien, ça coûte cher, il faut que le grand public le comprenne.
Anaïs Kien.
Oui, je voulais justement donner la parole à Patrick Geinsdorfer, puisque Patrick Villiers vous regardait en parlant justement de cette activité stratégique qui manque à la politique française maritime pendant longtemps.
Oui, c'est certain. De façon, il faut dire qu'il y a, pour la marine de guerre, il y a eu un état-major de la marine qu'à partir de la fin du 19e siècle et encore. Mais le problème est compliqué. Par exemple, il y a une activité de recherche de richesses, d'exploitation des pays coloniaux. Et maintenant, tout à l'heure, je évoquais la possibilité d'exploiter la mer, enfin, qui n'est pas nouvelle, qui est déjà ancienne. Mais elle s'est manifestée assez tôt et elle a favorisé, par exemple, le développement d'une recherche scientifique en mer. Parce que au milieu du 19e siècle, s'est développée l'installation des câbles sous-marins reliant le vieux continent à l'Amérique. Et pour mettre des câbles sous-marins, il fallait tout de même avoir une idée de ce qu'il y avait au fond de la mer. Alors que jusqu'ici, on savait bien ce qu'il y avait à la surface. Les marins, depuis l'Antiquité, connaissaient les courants. Même à l'Antiquité, un marin comme Pythéas, 4 siècles avant notre ère, avait très bien compris le phénomène de la marée, l'influence de la Lune. Mais on ne savait pas très bien ce qu'il y avait dessous, les pêcheurs un petit peu. Et donc, à partir de la moitié du 19e siècle, pour des raisons économiques et puis scientifiques, parce que les gens avaient envie de savoir aussi, tout de même, il ne faut pas négliger cette volonté de connaître, de comprendre et de savoir qui est à la base tout de même de la recherche, on a développé une recherche vers le fond des mers. Et c'est à ce moment-là que les Britanniques, d'abord, et les Français, derrière, ont commencé à faire de grandes expéditions océanographiques en 1871-72, une expédition 3-4 ans du Challenger autour du monde. Les Français en ont fait des plus courtes autour des mers de l'Europe orientale.
On est déjà capable de plonger aussi profondément dans
Pardon?
Ces années. On est déjà capable de plonger aussi
non,
profondément.
Non, alors on peut envoyer des engins si très profonds, jusqu'à plusieurs milliers de mètres. C'est très long. Mais ça correspond aussi au fait qu'on a des bateaux avec des propulsions mécaniques, avec des treuils mécaniques, et à ce moment-là, on peut aller très profondément. Mais on ne plonge que profondément qu'à partir du bathyscaphe dans les années 1840 avec le bathyscaphe et avec Huey Wilm.
Et j'ai vu l'autre jour une carte du monde qui reprenait la carte des réseaux Internet parcourt la planète pour pouvoir permettre très rapidement de transmettre des informations. Et cette carte était exactement la même, à peu de choses près, que la carte justement du télégraphe des années dont vous parlez, en l'occurrence Patrick Geisdorfer. C'est-à-dire qu'effectivement, on a repris les vieux câbles sous-marins ou les tracés des vieux câbles sous-marins découverts par ces océanographes et ces scientifiques que vous décrivez au milieu du 19e siècle dans votre livre Histoire de l'océanographie de la surface aux abysses, et on a repris à peu près les mêmes chemins au bout du compte.
Les câbles, on les a pas redécouverts, ils ont été posés au milieu du 19e siècle, les câbles ont toujours fonctionné entre les différents continents, entre la France et l'Europe et l'Afrique du Nord, entre l'Europe et l'Amérique et vers aussi l'Asie. Ces câbles ont toujours existé, ils se sont développés, et donc, comme je viens de le dire, ça a poussé à la découverte des grandes profondeurs, c'est-à-dire profondeur de plusieurs milliers de mètres, mais actuellement, tout le monde s'aperçoit que ces câbles sous-marins, on en repose encore, il y a Internet en plus, qui existe. Mais ils n'ont jamais été abandonnés, il y a des câbles qui ont été abandonnés, mais il y en a toujours eu en service.
Et si cette carte n'a pas tellement évolué, Patrick Geisdorfer, il y a quelque chose quand même de révolutionnaire qui se passe à la sortie de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Ce sont les États-Unis qui s'approprient, par un vote du Congrès, les hauts fonds qui entourent des millions de kilomètres carrés qui entourent l'espace nord-américain de manière totalement unilatérale. C'est-à-dire qu'ils sont seuls et ils décident, sans consulter les autres nations, ni d'ailleurs la nouvelle organisation des Nations Unies, de déclarer que ces millions de kilomètres carrés de fonds marins leur appartiennent en propre désormais.
Cette tendance des États-Unis de s'approprier
et ça
des choses sans demander tellement l'avis de tout le monde n'est pas tellement abandonnée. Mais il y a aussi le fait qu'on a développé tous les pays du monde, notamment la France et d'autres pays, les zones économiques exclusives qui couvrent 200 000 marins et qui maintenant ont tendance à être étendues jusqu'au niveau du plateau continental. Et donc les autres nations, y compris les États-Unis, ont ces zones économiques exclusives où l'État riverain se réserve le droit d'exploiter les richesses sous-marines.
Ce qui ferait d'ailleurs de la France, je crois, la première puissance, justement, ou la deuxième puissance au monde, par l'intermédiaire de ces confettis d'empire qui nous restent encore dans toutes les mers.
Oui, c'est ce qu'on dit, et c'est vrai au point de vue superficie, mais c'est très gentil d'avoir autant de mers. Mais il faut avoir les moyens de les assurer la souveraineté de la nation. C'est-à-dire que il faut à pouvoir assurer la souveraineté du pays, la souveraineté de notre pavillon sur ces mers. Donc il faut une marine de guerre puissante et développée. Actuellement, elle n'est pas en état, je la respecte beaucoup, j'en viens, mais elle n'est pas en état d'assurer ça. Ensuite, les grands fonds ne sont pas intéressants au point de vue économique, mais il y a actuellement une volonté d'aller au-delà des zones économiques pour exploiter les grands fonds marins qui sont déjà soumis à la Haute Autorité des Fonds Marins pour ce qui est du fond. Mmh. Mais l'UNESCO, dans 2 ans, va faire un colloque pour voir ce qu'on peut faire au point de vue légal dans la colonne d'eau, hors des zones économiques.
Cyril Coutancet, vous vouliez réagir?
Oui, alors en tout cas, sur ce mouvement, effectivement, sur ce cadre juridique qui couvre les océans, donc c'est un cadre international, parce que souvent on a l'impression, quand on voit les revendications des uns et des autres, que chacun cherche à s'accaparer une part supplémentaire des océans, mais en fait on a donc une convention, la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui réglemente les activités en mer et qui réglemente aussi la taille des espaces maritimes d'une certaine manière. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'était évoqué, c'est l'Autorité internationale des fonds marins, donc qui est un organisme de l'ONU et qui a donc qui a sous sa juridiction les fonds des mers et les fonds des mers qui sont consacrés patrimoine commun de l'humanité. Donc avec un cadre juridique qui est particulièrement novateur, puisqu'en fait l'exploitation des richesses qui peuvent être contenus sur ces fonds marins doivent donner lieu à une quote-part qui est reversée aux pays les moins avancés ou les pays qui sont dénués de littoral. Mmh. Donc on a un mécanisme juridique au niveau international qui est assez intéressant de ce point de vue-là.
Mais est-ce que le problème, ça n'est pas que vous n'êtes pas si nombreux dans un pays comme la France à vous intéresser à ces questions maritimes? Vous êtes ancien marin pour l'un, vous travaillez dans des institutions qui sont liées justement au ministère de la Marine ou au ministère de la Défense. Donc il y a d'une certaine façon une sorte, je vais pas dire de congénitalité autour de cette question donc maritime et de cette histoire longue de la France par rapport à ses mers, mais tout de même on a l'impression que ça ne pénètre pas profondément dans le corps social, les discussions, les débats. Vous évoquiez tout à l'heure, Patrick Geisdorfer, les difficultés à avoir aujourd'hui une marine de guerre. Et c'est vrai que ça n'est pas un débat tout à fait partagé par l'ensemble des Français. Et on a l'impression qu'à différentes époques, à différents moments, ça a toujours été plus ou moins le cas. Et qu'au bout du compte, il n'y avait pas eu de véritable discussion interne de la population française autour de ces questions de choix, pourrait-on dire, stratégiques, commerciaux, etc.
Oui, enfin, la marine de guerre que nous avons actuellement en France assume les missions nombreuses et très variées qu'elle a à faire,
là,
avec
vous
les moyens qu'elle a.
Vous vous rattrapez.
Non, mais elle n'est pas suffisamment puissante actuellement pour assurer la présence du pavillon sur l'ensemble de cette zone économique, la deuxième, troisième du monde que nous avons. Et d'ailleurs, c'est probablement pas nécessaire. Mais il y a eu des périodes où tout de même, on a eu une politique militaire au point de vue de la marine, juste à la veille de la guerre de 40, dans les époques historiques, Napoléon III et les autres qui ont évoqué mes camarades. Donc, il n'y a tout de même pas une ignorance totale de la chose.
Patrick Villiers.
Alors moi, ce que je dirais, c'est que je vais attaquer les manuels scolaires. Dans les manuels scolaires,
c'est facile d'attaquer les manuels scolaires.
C'est très facile. Vous prenez les manuels d'aujourd'hui, vous prenez la guerre d'indépendance américaine. On vous donne la seule défaite marine française qui est les Saintes. On oublie les 18 victoires et le fait qu'il n'y aurait pas eu Yorktown s'il n'y avait pas eu la Chesapeake qui est la marine française.
Et vous pensez que s'il y avait ça dans les manuels scolaires, ça réconcilierait les Français avec la mer?
On parle des colonies sans la mer. On oublie les ports.
On oublie la mer finalement.
Oui, et puis alors après, on a honte. Hein. Après, on a honte parce qu'on a eu des colonies, on a eu la traite des Noirs, etc. Donc c'est honteux, on n'a pas le droit d'en parler. Bon, mais il faut revenir à la réalité, dire ce qui doit être dit, et à partir de ce moment-là, constater que la France avait le deuxième empire en 1914. La France sur mer a toujours été la première des nations secondaires. C'est-à-dire qu'elle était la première seconde sous Louis XIV, elle était la première seconde sous Louis XVI, elle était la première seconde sous Napoléon III, la première seconde sous Louis XIV, en 14-18.
On était les leaders des mers.
Elle est toujours aujourd'hui la première des secondes. Elle est la sixième puissance mondiale.
Mais c'est peut-être
le problème. Non, la France est une puissance moyenne.
La France déteste être seconde.
Non, la France est une puissance moyenne qui, en fait, est sur mer la première des puissances moyennes. C'est une puissance moyenne. On n'est pas la Chine, on n'est pas les États-Unis, on n'est pas la Russie.
Cyril Coutancé.
Oui, alors pour répondre à votre question, d'abord juste sur les manuels scolaires, ce qui est assez intéressant, c'est que dans les manuels de géographie, donc la contemporaine, dans l'enseignement pour l'enseignement de nos chères têtes blondes, la maritimisation ou la globalisation et donc tout qui se fait beaucoup par la mer, parce que c'est effectivement, ça a été évoqué, la globalisation, c'est Internet, donc les caps sous-marins, et c'est le conteneur. Et ça n'est rentré dans les programmes scolaires qu'il y a maintenant 6-7 ans.
Donc, oui, mais ça y est tout de même. Et d'ailleurs, quand on va faire des émissions sur le bac, on voit bien que les élèves s'intéressent dans ces chapitres géographie justement à ces questions de ces immenses ports, en particulier du côté de la Chine et de l'Asie.
Non, alors mais ce que je voulais souligner, c'est que c'est très récent. Et après, là où je vous rejoins tout à fait, c'est que nous, les amateurs, les connaisseurs un peu de ce monde de la mer, on a un travail effectivement à faire pour nous rendre, je crois, accessible. C'est-à-dire qu'on est bien souvent, moi le premier certainement, tellement dans nos univers maritimes qu'il faut qu'on fasse cet effort de passeur, c'est-à-dire de sortir effectivement de tout toucher des publics nouveaux, mais avec des termes aussi qui soient accessibles, nous rendent compréhensibles aussi. Je crois qu'on a un effort à faire là-dessus.
Patrick Geithofer.
Oui, les manuels scolaires, Patrick parlait des manuels d'histoire, mais un mot a été dit sur les manuels de géographie. Je me souviens, et je les ai encore, pour des raisons familiales, dans mon enfance, au lycée, où j'étais, à Paris, en 4, on avait des manuels de géographie de Mangeon à Perpignan, et je les ai encore. Et ces manuels traitent abondamment de la mer. Il n'y a pas que la terre. Dans le bouquin de Seconde de Perpignan de géographie, il y a des paragraphes entiers sur la mer, et qui sont très détaillés, et qui ne sont pas périmés actuellement. Et quand je les ai relus, parce que j'avais un peu oublié mes classes du lycée, j'étais étonné de voir déjà la richesse de ces livres. Alors, je parle d'ouvrages de géographie. Hein. Je ne vais pas... Patrick est parlé d'histoire. Mais l'enseignement de la géographie fait partie de l'enseignement des lycées et collèges.
Et tout compte fait, y a-t-il beaucoup de chaires d'histoire maritime, par exemple, puisque nous sommes dans une émission d'histoire, Patrick Villiers, est-ce que, tout compte fait, il y a, disons, une masse suffisante de chercheurs, historiens, qui s'y intéressent à cette histoire des mers, à cette histoire maritime ?
Alors, la réponse, elle est oui et non. Paradoxalement, en histoire moderne, on a eu un noyau très important qui avait été initié par Mouladou Jourdain, puis ensuite par le professeur Meyer. Bon. Mais en histoire contemporaine, il y a un très, très grand vide. En histoire du Moyen-Âge, il n'y a plus grand monde. Et puis, d'autre part, il faut bien voir qu'en histoire tout court, et vous le savez très bien, l'histoire économique par rapport aux années 1990 est en profond déclin. Et aujourd'hui, la majorité des chaires sont d'histoire religieuse. Appelons un chat un chat. Hein.
Je suis pas si sûr que j'ai siégé
dans suffisamment de commissions de spécialistes pour vous en parler.
Ouais. Histoire sociale peut-être.
Histoire sociale aussi, par exemple. Oui, on pourrait aussi renouveler la façon de regarder cette histoire maritime. La charger d'histoire sociale, ce qu'avait d'ailleurs fait Michel Molin à une époque.
La charger d'histoire politique.
Et d'histoire politique.
Bien entendu, tout à fait. Oui. C'est ce que j'ai tenté de faire dans ma lointaine université à côté de Dunkerque.
Patrick Geithofer.
Oui, tout de même. Sur l'histoire actuellement enseignée dans les collèges, lycées, j'ai l'impression que, d'une façon générale, elle est très déficiente et très faible par rapport à ce qu'on a pu avoir dans des époques antérieures, les anciennes comme la mienne. Mais il y a tout de même des historiens maritimes, il y a eu des écoles, Patrick vient d'en citer, il y a Audrère qui a travaillé sur la marine du XVIIIe siècle, sur la Compagnie des Indes. À Lorient, il y a des gens comme Linares, Le Bouedec, qui ont travaillé sur la marine du XVIIIe. Il y a Meyer, Assera, il y a eu beaucoup de gens. Mais c'est vrai que c'est une période assez précise. C'est la marine de l'époque moderne, 18e, début 19e.
Après... Aujourd'hui, il y a le Havre.
Cyril Coutancet, vous êtes directeur de recherche au Centre d'études stratégiques de la Marine. Quels sont les travaux qui sont en cours aujourd'hui sur cette histoire maritime, justement ?
Alors, sur l'histoire, nous, on est plus sur le contemporain, justement. Hein, mais je trouve qu'il y a un nouvel attrait dans les chercheurs, moi, que les jeunes poussent, si on peut dire, les doctorants ou autres. Il y a un attrait pour le maritime quand même. Alors, du point de vue juridique, notamment, parce qu'il se passe beaucoup de choses...
Le droit de la mer.
Le droit de la mer, voilà. Et je trouve qu'il y a un nouvel attrait après une période de basse eau, justement. Il y a des gens qui reprennent le sujet. Il y a des choses qui se passent au niveau historique un peu moins. Enfin, moi, je le vois moins, en tout cas, de jeunes chercheurs. Mais oui, il y a un attrait, en tout cas, qui se fait jour, sans doute aussi parce que c'est des domaines qui sont finalement encore peu explorés et donc qui offrent une possibilité intéressante pour des jeunes doctorants de trouver des choses, de remettre en question d'avoir des questionnements un peu nouveaux. Donc je pense que c'est des terrains encore un peu vierges et donc qui sont intéressants.
Mais on sait bien, Cyril Coutancet, tout de même, qu'il faut une certaine masse critique pour que un milieu de recherche finisse par être audible au-delà de son propre cercle et que peut-être cette masse critique n'est pas suffisamment grande pour pouvoir justement influencer les discussions, les débats, ce que nous disons depuis un certain temps dans cette émission d'aujourd'hui.
À l'heure actuelle, effectivement, clairement, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais en tout cas, c'est plutôt réconfortant de voir toute une série de jeunes étudiants qui se mettent en tout cas sur ce genre de domaine et sur ce genre de travaux. Il y a vraiment des choses qui vont être intéressantes, je pense, dans les années à venir.
Mais bien, on va les
guider. On n'atteindra peut-être pas la masse critique, mais en tout cas, déjà bien.
On va les guetter, évidemment, et puis on va guetter les travaux de chercheurs qui, à La Rochelle, à Nantes ou ailleurs, travaillent sur ces questions-là, en particulier sur ce qu'évoquait tout à l'heure Patrick Villiers, c'est-à-dire l'empire colonial français de l'époque moderne et de l'époque contemporaine. Merci à vous trois d'être venus réfléchir ensemble à ces questions, justement, du rapport de la France à ses mers. Je rappelle votre livre, Patrick Villiers, qui s'intitule « La France sur mer de Louis XIII à Napoléon Ier », c'est chez Pluriel. Cyril Coutancé, « L'Empire des mers, atlas historique de la France maritime », c'est copublié par le Musée national de la Marine et CNRS Éditions. Et vous êtes aussi l'auteur de « L'Atlas des empires maritimes » en 2013. Patrick Geisdorfer, c'est vous qui racontez l'histoire de l'océanographie, de ces combats aussi entre nations du 19e siècle pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe au fond des mers et donc pas simplement à la surface. Ça s'intitule donc le sous-titre est « De la surface aux abysses, au Nouveau Monde », aux éditions Nouveau Monde, ça vient de sortir à la fin de l'année dernière. Et puis on peut citer aussi de vous Patrick Villiers avec la participation de Monsieur Le Mineur, l'Hermione, Lafayette, la Touche Tréville, donc deux hommes, une frégate au service de l'indépendance américaine qui revient sur cette longue histoire dont on a beaucoup parlé l'année dernière au moment du lancement de la réplique de l'Hermione.
Une marine de guerre, pour quoi faire? Donc pour aider l'Amérique.
Merci beaucoup à tous les trois et merci Anaïs d'avoir préparé cette semaine avec nous. Évidemment, si vous voulez avoir des renseignements sur ces émissions donc consacrées à l'usage des mers, au territoire liquide, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez écouter les émissions, mais également lire les bibliographies qui sont jointes à chacune des fiches des émissions, télécharger ces émissions pendant l'année qui suit leur diffusion, et également discuter avec nous, soit sur ce site, il y a des commentaires, vous pouvez poster des commentaires, mais ainsi que sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire et sur le réseau Twitter. Comme d'habitude, cette émission a été préparé par Marivonne Bolivier et Aurélie Marsay, à la technique avec nous aujourd'hui Bruno Gagnère-Fontani et à la réalisation Françoise Camard.